Vous écoutez RTL.
Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime. Ravi de vous retrouver jusqu'à 21h sur RTL, où ce soir nous allons plonger dans une incroyable opération de manipulation mentale. Comment, derrière les murs d'un château ancestral du Lot-et-Garonne, puis dans une maison en Angleterre, comment un seul homme, pendant 10 ans, a séquestré, isolé, asservi toute une famille de riches aristocrates et méthodiquement dépouillé les Védrines de leur fortune, bien sûr, près de 5 millions d'euros, mais surtout de leur bien le plus précieux, le fil de leur vie. Une famille qui sera surnommée les reclus de Montflanquin, du nom du château qu'ils vont perdre lors de ce voyage hors du temps, sous l'emprise d'un gourou, d'un directeur de conscience appelé Thierry Tilly. Tilly, qui sera condamné en 2013 à 10 ans de prison pour escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds, séquestration avec actes de torture et de barbarie. Pendant une décennie, un huis clos tragique devant lequel la justice se disait démunie ou impuissante, la spirale diabolique sera finalement brisée, mais en laissant derrière elle des dégâts irrémédiables, des plaies sans doute à jamais refermées. Si nous revenons ce soir dans l'heure du crime sur cette manipulation mentale d'une durée et d'une ampleur exceptionnelle, c'est surtout pour s'intéresser à son instigateur Thierry Tilly, cet homme qui se présente comme le neveu de la reine d'Angleterre, agent secret ou sportif professionnel et dont on ne connaît toujours pas le vrai visage, au point d'avoir été affublé de surnoms comme le caméléon ou le fantôme. Thierry Tilly a passé 9 ans en détention et il est aujourd'hui libre. Il a purgé sa peine dans les semaines suivant sa sortie de prison. Au mois d'août 2018, il avait été interné dans un hôpital psychiatrique, mais il est depuis sorti. Alors qui est vraiment Thierry Tilly ? Dangereux maître à penser ou mythomane sans scrupules ? Homme vivant dans un autre temps ou escroc cynique ? Thierry Tilly, le gourou de Montflanquin, à tout de suite sur RTL.
20h, 21h.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Il a créé un monde de peur autour de nous, de terreur. Je ne sais pas comment je suis tombée. Ce que je sais, c'est que je suis tombée.
L'heure du crime, ce soir avec l'histoire stupéfiante du gourou de château de Montflanquin. Un homme qui, pendant 10 ans, va tenir sous son emprise toute une famille d'aristocrates, les Védrines, prendre le contrôle de leur vie et les conduire à la ruine. Cet homme, c'est un dénommé Thierry Tilly. Et c'est en 1997 qu'il entre dans la vie des Védrines. Ou plutôt, dans celle de Ghislaine Marchand, dont le nom de jeune fille est Védrine. Elle tient à Paris une école professionnelle pour filles de bonne famille, la femme secrétaire. Thierry Tilly a 33 ans, de faux air de Bill Gates, coiffure sage et grosses lunettes. Sa société a décroché le contrat de nettoyage de l'établissement. Tilly paraît sérieux, même s'il traîne derrière lui une longue série d'entourloupes et de dissimulations. De vagues études de droit, quelques affaires dans l'immobilier qui se soldent par une condamnation, une route qui croise l'héritier d'une maison de champagne, Hugues Gosset. Thierry Tilly affirme sortir de l'école de marketing sup de luxe, affirme être le descendant d'une grande famille bretonne ayant perdu sa particule. Il laissera à Hugues Gosset une ardoise de 100 000 euros. Ghislaine Marchand, née Védrine, ne sait évidemment rien du passé affairiste de Thierry Tilly. Mais c'est comme si Thierry Tilly savait très vite tout d'elle et de sa famille, les Védrines, un patronyme issu de la vieille aristocratie française. Tilly, c'est que l'école de Ghislaine bat de l'aile. Il fera donc office d'homme providentiel, de sauveur. Grâce à ses relations, il peut tout faire. Son influence est immense. Il confie ainsi appartenir à une fondation humanitaire au Québec, la Blue Light Foundation. Bientôt, il admettra être un agent secret supranational. Une cascade de mots qui se déverse à la façon d'un filtre ensorcelant. Thierry Tilly devient incontournable, indispensable, omniprésent. Ghislaine Marchand est comme envoûtée, une femme sous influence. Thierry Tilly vient de trouver son cheval de Troie pour entrer dans la famille de Védrine. Bonsoir Jean Marchand.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'heure du crime sur RTL. Nous aurons tout à l'heure au téléphone notre deuxième invité, maître Alexandre Novion, qui est l'avocat de Thierry Tilly. Jean Marchand, je me tourne vers vous. Vous êtes l'époux de Ghislaine Marchand, la première approchée par Tilly. Vous avez longtemps mené seul le combat pour dénoncer les activités de celui qu'on qualifie de gourou. Vous avez publié, avec votre épouse d'ailleurs, un livre sur cette affaire diabolique chez XO Édition. Jean Marchand, quel souvenir gardez-vous de votre toute première rencontre, je dis bien toute première rencontre avec Thierry Tilly ?
Eh bien, c'était en septembre 99, lors d'une garden party chez un avocat associé dans l'école qui a eu la mauvaise grâce d'introduire Tilly dans cette école précisément. Et d'emblée, ce personnage m'a déplu. Vous savez, il y a des rencontres qui sont positives, il y en a qui ne le sont pas. Je l'ai trouvé lisse, huileux, obséquieux surtout. Il ne me connaissait pas, mais il a commencé à me flatter. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, surtout de la part de gens que j'ignore. Et au bout d'un moment, excédé sans doute par ma froideur, il m'a dit, alors il s'est passé un peu de temps quand même, c'était la fin de l'après-midi, il m'a dit qu'il était agent secret. Je pense que là, il m'a rendu un fier service, car évidemment, j'ai fermé les écoutilles pour toujours.
Est-ce que votre épouse, à ce moment-là, Ghislaine, vous parle de ce Thierry Tilly? Et qu'est-ce qu'elle vous dit à son sujet?
Eh bien, très précisément, et d'ailleurs la scène est assez bien racontée dans le film qui a été tourné d'après notre livre, nous rentrons en voiture, c'était au Vésinet, nous habitons près du bois de Vincennes, donc on traverse tout Paris, et je dis à Ghislaine, qu'est-ce que c'est que ce type qu'on m'a présenté? Il est vraiment étrange, il est déplaisant, et je me méfierais beaucoup de quelqu'un comme lui à ta place. Et ma femme, qui est plutôt vive, qui a de la répartie, qui a un vrai caractère, n'a rien dit. C'était extrêmement étrange. Et la suite l'a prouvé, évidemment, puisque, alors, autant vous dire qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ce que serait la suite, l'ampleur qu'aurait ce tsunami, c'est
bien
ainsi
sûr
que je l'appelle.
Là, vous ne pouvez pas vous en douter à ce moment-là.
Je ne peux pas m'en douter, mais comment vous dire, je ne sens pas ce bonhomme. Et je le vois aux côtés de mon épouse, je le vois dans l'école à chaque fois que j'y vais, et cela m'inquiète. Et toute l'année 2000, cela va évidemment m'inquiéter, je vais le voir monter en puissance, mais comme il sent très bien que je lui suis rebelle, que je regimbe, que je ne réponds pas à ses propositions financières mirifiques, eh bien, en novembre 2000, il va me faire séquestrer par mes deux beaux-frères qui sont complètement sous sa coupe, eux aussi, et je vais rester deux jours enfermé dans ma chambre, à mon flanc.
On va en parler, mais quels sont les premiers signes que vous pouvez détecter chez votre épouse, comme quoi bah, peut-être il y a un truc qui se passe? Vous parliez de son silence tout à l'heure.
Absolument, ce jour-là en tout cas, mais la suite était encore plus manifeste, puisque je la vois critiquer nos plus proches amis, des membres de notre famille, ils deviennent brusquement à rejeter, il ne faut plus les voir.
Alors que vous aviez de bonnes relations avec
eux. Alors que pour la plupart de ceux auxquels je pense, nous avions d'excellentes relations, c'était soit des parents, soit des amis très proches. Il ne faut plus les fréquenter parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux, c'est le mot qui revient tout le temps dans la bouche de Tilly. Et voilà, donc il nous isole, il isole mon épouse. Et ça c'est un vieux truc, évidemment, des prédateurs, des manipulateurs.
C'est ça, monter les uns contre les autres, isoler et voir où sont les failles. Ça, c'est la méthode, effectivement, de Thierry Tilly, qui d'ailleurs voit plus loin. Il vise beaucoup plus haut qu'une hypothétique mainmise sur l'école de Ghislaine Marchand, mais sur toute la lignée familiale des Védrines, dont l'épicentre, il sait tout, Thierry Tilly, se situe dans un château dans le Lot-et-Garonne, là où il va pouvoir étendre son pouvoir et régner sans partage sur les uns et les autres, le château de Montflanquin. A tout de suite dans l'heure du crime.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Sur RTL, où ce soir on vous raconte la trajectoire de Thierry Tilly, le gourou du château de Montflanquin. La manipulation mentale de toute une famille, issue d'une longue lignée d'aristocrates du Sud-Ouest, la famille de Védrines. Et c'est dans ce clan plutôt soudé, même si comme dans chaque famille il existe aussi des préférences et des fâcheries, c'est Ghislaine, l'une des filles de la famille, qui voit en Tilly un homme providentiel, qui va sauver son école à Paris, mais aussi redonner du lustre à la noblesse française et protéger les Védrines. C'est donc Ghislaine qui présente Thierry Tilly au sien, un loup dans la bergerie, ou plutôt dans un château, celui de Montflanquin. Nous sommes alors en 2001 et derrière les murs de cette bâtisse du XVIe siècle aux frontières du Périgord et du Quercy, Thierry Tilly capte toute l'attention, apte à saisir les failles des uns et des autres et à agiter les miroirs qu'ils attendent. Bientôt, ce sont pas moins de 11 membres de la famille de Védrine qui vont succomber à cette entreprise de séduction. La grand-mère de 96 ans, 3 fils et filles, 2 beaux-frères et 5 petits-enfants, dont le plus jeune a 24 ans. Un élixir qui fait de lui un personnage indispensable, seul apte à protéger les Védrines de dangers de toutes sortes, même s'ils sont le plus souvent obscurs et hypothétiques. Peu à peu, subrepticement, les portes du château de Montflanquin vont donc se refermer, laissant Thierry Tilly, seul maître des lieux, tenant dans ses mains la destinée de toute une famille incapable de lui résister. Jean Marchand, vous êtes l'époux de Guylaine, l'une des filles de la famille. Racontez-nous votre visite à Montflanquin en 2001, là où vous avez vraiment compris qu'il se passait quelque chose d'anormal derrière ces murs.
Alors d'abord, il faut savoir que depuis le printemps 2001, Thierry Tilly n'était plus là. Il était en Angleterre où il s'était réfugié car il était en délicatesse avec la justice et la police française. Donc il a travaillé à partir de printemps 2001 avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Les fax à l'époque, Internet, les téléphones portables. Et il ne cessait pas de les convoquer pour les avoir au téléphone. Je voyais ma femme passer des heures au téléphone avec lui en se réfugiant dans un coin pour être à l'abri des écoutes, enfin de nos écoutes. Et ça faisait partie de l'étrangeté d'ailleurs. Donc c'est très important à savoir, c'est que Thierry Tilly n'était pas présent auprès d'eux.
C'est ça.
Il avait opéré avant.
On attendait finalement le coup de fil du gourou.
Ah oui.
Qui allait donner des ordres et sûrement le programme de la journée, je suppose.
Exactement. Et il les convoquait. Et il fallait qu'ils rendent compte de leur journée. Et évidemment, il divisait pour régner. C'est-à-dire qu'il disait aux uns du mal des autres. Il les montait les uns contre les autres. Imaginez un huis clos dans ces conditions.
Et un huis clos terrifiant, puisque votre épouse elle-même va vous rejeter.
Alors effectivement...
Accompagnée, je crois, de ses 2 frères.
Absolument. Ceux déjà qui m'avaient séquestré en novembre 2000. Eh bien, nous marions notre fille Guillemette le 1er septembre 2001, avec beaucoup d'invités au château de Martel dont vous parliez tout à l'heure. C'était le bonheur familial absolu. Et 6 jours plus tard, le 7 septembre 2001, ma vie s'arrête, puisque mes beaux-frères et ma femme débarquent chez nous, dans notre maison, qui n'est pas très loin du château de Martel, et après 2 heures extrêmement dures, m'expulsent de chez moi, manu militari, et je me retrouve vers 7 heures du soir, après avoir tout essayé pour convaincre Guylaine que je ne suis pas celui qu'elle essaye de dénoncer, que je ne suis pas le monstre que Tilly lui a mis dans la tête, je me retrouve donc devant la gare d'Agen avec mes valises et le ciel qui m'est tombé sur la tête.
Et donc vous allez rentrer chez vous tout seul à Fontenay-sous-Bois, je crois en région parisienne, où
absolument,
vous habitez à l'époque. Et alors là, qu'est-ce que vous dites finalement? Vous êtes tout seul et face à un mur.
Je suis assommé, mais surtout je vais rentrer chez moi, effectivement. Le dimanche, le 7 septembre, c'était un vendredi. Le samedi, je le passe chez des amis. Je rentre chez moi le samedi soir. Et je constate que les serrures de chez moi ont été changées et que je ne peux pas rentrer chez moi. Deuxième effondrement. Et il faut dire que pendant les 4 mois de septembre à la fin de l'année 2001, tout ce qui faisait ma vie va s'écrouler. Ma famille donc, ma femme et mes enfants, qui disparaissent, que je ne reverrai qu'en mars 2010. Mon emploi, car mon président prendra peur et me licenciera. Mes parents disparaissent et... Dernier élément dramatique pour moi, eh bien ma fille qui s'est mariée donc le 1er septembre 2001 rejoint le groupe sous la coupe de Tilly et son mari ne la reverra plus.
À quoi essayez-vous de vous raccrocher alors, Jean Marchand, à cette époque-là, puisque vous êtes face à un fantôme, hein, on l'appelle comme ça aussi, Thierry Tilly.
Alors vous savez, vous vous raccrochez à tout ce que vous pouvez avoir. Mes parents étaient encore là pour quelque temps, les amis ont été extrêmement proches de moi, car je n'ai pas eu ce qu'ont parfois des gens dont la famille est sous emprise, je n'ai pas eu de problème de crédibilité. Ma femme avait tellement changé depuis 2 ans que tout le monde l'avait vu. Ses propos, son comportement, son langage avaient tellement changé que quand j'ai raconté ce qui venait de se passer, tout le monde m'a cru. Donc j'ai commencé à me battre tout de suite en me disant « Il n'est pas question d'abandonner les miens dans une telle tourmente, il faut se battre. Et au début, ce sont des moulins à vent contre lesquels on se bat.
Alors on a au téléphone de l'heure du crime notre deuxième invité, maître Alexandre Novion, avocat de Thierry Tilly. Bonsoir maître.
Bonsoir monsieur Richard.
Alors on va revenir avec vous évidemment sur le profil très particulier de votre client. Mais que dit-il lui de son entrée dans la famille de Védrine à l'époque ?
Si vous permettez, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait monsieur Marchand. Et d'autant plus que avec une certaine émotion, parce que cet homme a vécu un véritable calvaire. Il a été extrêmement courageux et j'ai toujours eu, défendant Thierry Tilly, conscience de cette marche, de cette aventure dans laquelle il s'est lancé en étant très seul. Mmh. Et le courage dont il a fait preuve, parce que finalement je suis assez à l'aise pour vous dire ça, parce que j'ai défendu Thierry Tilly, mais je n'ai pas combattu contre les parties civiles. Voilà.
Alors justement, votre client, que disait-il ou que dit-il encore peut-être sur son entrée dans la famille de Védrine, entrée qui est bien mystérieuse?
Bah écoutez, ce que je voudrais dire d'abord sur la personnalité de Thierry Tilly, c'est que c'est un phénomène Thierry Tilly, mais au sens hugolien du terme, hein, au sens des choses vues. Hein. Bon, moi j'ai pas trouvé dans la famille humaine, j'ai pas trouvé d'analogue. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un quand même de tout à fait déconcertant. Mmh. Quand il m'appelle pour sa défense, il est en prison depuis 3 ans. Il n'a pas pris d'avocat. Il m'écrit, je vais le rencontrer. Et puis là, je vois quelqu'un qui n'a pas un physique vraiment qu'on remarque. C'est-à-dire, c'est un monsieur assez passe-muraille. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas, voilà, qui a pas passe-partout. Voilà, qui a pas. Mais par contre, il y a une chose que je remarque. C'est un regard bleu, mais bleu comme la mer à Paimpol, hein, mais qui vous vrille, si vous voulez, qui vous vrille, et une façon de parler, une espèce de verve comme ça,
de logorée, un peu.
De logorée, voilà, de logorée verbale. Et ce que je vais découvrir, c'est une mémoire incroyable.
D'accord.
Ça, au fur et à mesure, t'as une mémoire, mais comme j'ai jamais vu ça.
Alors, Thierry Tilly et son regard bleu va faire son nid, pourrait-on dire, au château de Montflanquin, le château de Martel, qu'il va mettre en coupe réglée, comme le constatera un jour la justice. Mais Thierry Tilly n'est-il motivé que par l'argent? Pas sûr. A tout de suite, dans l'heure du crime.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong. Pas Tokyo, et il fait si chaud. Bienvenue sur la terre.
Thank you.
20h, 21h.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Et nous revoilà ensemble dans l'heure du crime où nous suivons ce soir la route de Thierry Tilly, qu'un avocat présentera un jour comme le Léonard de Vinci de la manipulation mentale, avec une emprise sur toute une famille. Et c'est bien la famille de Védrine que contrôle en ce début des années 2000 l'autoritaire et charismatique Thierry Tilly, dans la quiétude et l'anonymat du magnifique château de Martel à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Mois après mois, la famille de Védrine, 11 personnes au total, est de plus en plus recluse. Un voile de silence va ainsi tomber sur Montflanquin, ses locataires et leur gourou. Au mois de mai 2004, pour la première fois, les choses bougent au château. Les meubles de la bâtisse sont saisis et vendus au profit du fisc. Conséquence immédiate de la politique imposée par Thierry Tilly au propriétaire du château, ne plus payer d'impôts. Les 11 membres de la famille de Védrine quittent alors les lieux. Direction à 7 km de là, un refuge provisoire, Talade, la maison de l'un des reclus, Philippe de Védrine, ancien cadre de l'industrie pétrolière. Une ferme qui va se transformer en prison où chaque jour, on guette le téléphone pour attendre les ordres du gourou Thierry Tilly. Jean Marchand, à cette époque, votre femme, votre fille et votre fils également, je crois, font partie des reclus, c'est bien ça ?
Absolument.
Ils ne veulent plus vous voir depuis que Thierry Tilly les a pris en main et en otage, on pourrait dire.
Oui.
Que savez-vous de ce qui se passe derrière tous ces murs, le château, puis ensuite cette maison d'un des frères de votre épouse? Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous arrivez à le savoir?
Oui, je finis par savoir un certain nombre de choses, avec souvent un décalage, bien sûr, parce que tout de même, ils sortent un peu pour faire des courses. Ils ne sortent que sur autorisation de Tilly, bien sûr. Quand ce grand agent supranational a sécurisé le périmètre, comme il disait, avec ses équipes. Mais quelques-uns les voient, donc voient comment ils sont, comment ils se comportent. On sait que ils n'ont pas d'argent, bien sûr, puisqu'il leur a tout pris. On sait qu'ils ont froid, on sait qu'ils ont faim, on sait que quand ils vont au supermarché, parfois ils laissent sur le tapis de la caisse un certain nombre d'articles car ils ne peuvent pas les payer. Donc ils vivent dans le dénuement le plus total et surtout sous un régime de terreur que Tilly a installé autour d'eux pour précisément les séquestrer. Ils le sont pas physiquement, car ils pourraient sortir, mais ils le sont d'abord dans leur tête, bien sûr.
Mais est-ce que vous allez sur place? Est-ce que vous allez essayer de voir votre famille? Est-ce que vous téléphonez? Comment ça se passe?
J'essaye d'utiliser tous les moyens possibles, d'y aller, d'envoyer des amis, de téléphoner, mais très très vite, le téléphone ne répond plus. Il est bloqué, il est sur boîte vocale, etc. Les portables, c'est la même chose. J'envoie des fax, dont je devine qu'ils n'arrivent pas, et j'écris beaucoup. Et je saurai après, quand tout sera terminé, en mars 2010, que ces lettres ont compté pour les miens et qu'ils les ont lues et relues, avec obligation bien sûr de les soumettre à Tilly, qui les réécrivait pour eux, qui leur disait le sens caché de mes lettres. Mais ça n'empêche, pour eux, c'était un lien maintenu, un lien très important qui leur permettra, quand le drame s'achève, donc fin 2009, début 2010, eh bien, leur permettra de sortir dans les meilleures conditions possibles.
Donc Thierry Tilly exerce un contrôle total sur votre famille.
Tout à fait.
Mais alors là, une question se pose. Quelle est la réponse des autorités? Je pense que vous avez alerté à cette époque la justice,
bien sûr.
La gendarmerie, la police, je ne sais pas.
Tout le monde. J'ai fait tout ce que l'on peut faire dans ce domaine, des mains courantes, des dépôts de plaintes. J'ai écrit au procureur de la République dès la fin de septembre 2001, donc quelques semaines après mon expulsion. Pour tout dire, ça n'a servi à rien. Tout tombait dans une espèce de grand trou et il n'y avait aucune suite. Simplement, c'est quand ma famille professionnelle m'a proposé de réagir, à la place des autorités, de la police et de la justice, qui, il est vrai, sont assez démunis dans ce domaine. Eh bien, c'est quand la presse, les médias, mes confrères s'en sont mêlés, que les choses ont commencé à bouger et que, comme par hasard, un procureur de la République m'a téléphoné en me disant « Peut-être faudrait-il qu'on se voie ».
Et alors là, qu'est-ce que vous dites à ce procureur? Est-ce que vous lui décrivez l'ampleur des dégâts?
Je lui explique un maximum des éléments dont je disposais, c'est-à-dire finalement beaucoup de choses, car pour moi, tout ce que j'avais vu sans vraiment le voir à partir de septembre 99, brusquement devenait très clair. Et donc je raconte tout ça et il va y avoir une enquête préliminaire lancée, donc un premier acte. Et puis cela s'arrêtera, je serai convoqué par la police qui me racontera avec des gens extrêmement experts tout ce qui est fait financièrement, des SCI en nombre, enfin toute une manipulation matérielle.
Alors là vous parlez du côté financier hein, de
tout
Thierry
à fait, mais qui n'est qu'un des côtés. Et d'ailleurs tout à l'heure vous disiez mais peut-être l'argent n'est-il pas le moteur.
Voilà. Mais un mot quand même sur l'argent. Il a monté des sociétés,
il a organisé leur ruine.
Ouais, c'est ça.
Parce que non seulement il a pris tout ce qu'ils avaient, mais il a fait vendre tout ce qu'ils avaient.
Et cet argent part à l'étranger, c'est ça?
Et cet argent part sur ses comptes. En tout cas, je verrais que nos économies, ce que nous avions, nous, part sur ses comptes. J'avais même les numéros des comptes. Hein. Il ne s'embarrassait pas de tout ça. Et puis, donc, tout va partir. Les meubles ont failli partir, vous en parliez tout à l'heure. J'ai pu les faire bloquer en Lot-et-Garonne, précisément. Ils partaient pour l'Angleterre. Bref, tout est parti. Et on ne sait pas ce que c'est devenu.
Alors, la manipulation mentale, l'argent, difficile de comprendre encore aujourd'hui quel pouvoir exerce Thierry Tilly sur cette famille. Un mélange de mysticisme et de terreur. L'art de déceler des failles, des fragilités chez des personnes intelligentes et qui pourtant avaient jusque-là les pieds sur terre. L'expert psychiatre qui l'examinera, Daniel Zaguri, dira que Tilly a fait, je cite, « du cousu-main » en adaptant son emprise à chaque membre de la famille au point d'avoir mis leur intelligence en jachère. Maître Alexandre Novion, au téléphone de l'heure du crime, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Thierry Tilly. Vu sous cet angle et sous l'angle du psychiatre, Tilly, c'est le diable.
Oui, mais je voulais répondre à une question que vous avez posée lorsque vous dites que dans cette affaire, l'argent n'était pas peut-être la seule motivation de Tilly. Moi, je crois que c'est important, c'est une dimension importante de l'affaire, c'est-à-dire que finalement, Thierry Tilly, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est beaucoup plus contagieux que persuasif. C'est-à-dire que la caractéristique de Tilly, c'est que lui-même paraît croire aux folies et aux délires dans lesquels il entraîne ses victimes. Ça, c'est une dimension quand même extraordinaire de ce dossier, parce que, si vous voulez, Tilly n'a jamais vécu comme un pharaon hédoniste et ne paraît pas profiter directement de l'argent qui part des Védrines. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, à mon avis, n'a pas pris sa dimension dans cette affaire, où on est peut-être passé à côté de quelque chose. C'est un personnage qui s'appelle Jacques Gonzalez, qui est une personne qui a créé une structure qu'on appelle la Blue Light Foundation. Vous voyez déjà la sonorité racoleuse et captieuse, et dans lequel il a parfaitement su faire passer Thierry Tilly, se servir de Thierry Tilly, Thierry Tilly ayant une personnalité totalement aveuglée depuis sa plus tendre enfance, par le bleu bouvine, par la chevalerie, par des choses totalement chimériques. Et ce qui est vraiment, si vous voulez, caractéristique de Thierry Tilly, par rapport aux escrocs, je dirais classiques, c'est que c'est un besogneux, Tilly. Quand je le vois, il avait l'air de sortir d'une ruche, toujours. Il a cette espèce de trémulation besogneuse. Il est toujours en train de travailler. Une journée de Tilly, ça commence à 5h du matin, ça se termine à 8h du soir, et il travaille des dossiers surtout. Et si vous voulez, Thierry Tilly, c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas eu les diplômes dont il s'est vanté d'avoir. Il y a cette dimension mythomaniaque. Mais il a un savoir. Il a un savoir qui est totalement désordonné. Mais il a une espèce d'avidité de pouvoir faire connaître son savoir et de pouvoir, grâce à son savoir, avoir réponse à tout. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je crois, qu'il a pu créer avec Guylaine Marchand une relation qui, à mon avis, n'a pas de nom dans la langue, qui est une relation totalement innommée, qui est un véritable radar, mais qui a été un radar dans lequel tout a été emmené, finalement. Voilà. Mais le grand marionnettiste de cette affaire, ça n'est pas Tilly, c'est Jacques Gonzalez.
Alors, ce que vous dites est intéressant, maître, parce que ça voudrait dire le manipulateur manipulé, finalement.
C'est quelqu'un qui a été manipulé. Alors, attention, hein, je ne cherche pas du tout à dévaloriser ou à diminuer le préjudice, le dommage qui a été causé à cette famille tout à fait honorable. Mais si je pense qu'ils ont été manipulés par quelqu'un qui était lui-même manipulé. Et je pense, si vous voulez, que le côté incroyable de cette affaire, c'est que Tilly était rentré dans l'histoire de cette famille, se prenait lui-même, si vous voulez, était tellement attiré par l'histoire de cette famille, parce que c'est pas par hasard, si vous voulez, qu'il est entré en contact avec cette famille. Mmh. Parce que lui-même, passionné d'histoire, connaissait parfaitement l'histoire des familles protestantes, connaissait peut-être effectivement leur brèche, mais il a une façon de s'assimiler, c'est-à-dire qu'on avait l'impression au bout d'un moment qu'il devenait ou qu'il voulait devenir un membre à part entière de cette famille.
Fasciné donc par ce blason de cette famille. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oh oui, je suis d'accord. Je trouve que Jacques Gonzalez s'en est bien tiré. D'ailleurs, Tilly le présentait comme son chef, comme le grand patron du service secret supranational dont il faisait partie. Il faut savoir que ce service secret avait une ligne directe avec la Maison Blanche, que Tilly disait lui-même, en tout cas il l'a dit à la famille, que Jacques Chirac ignorait l'existence de services secrets qu'il disait d'appartenir à l'OTAN. Enfin, il suggérait que ça pouvait être dans la mouvance de l'OTAN. Mais Thierry Tilly, en fait, c'est un cocktail à trois dimensions, pour moi. C'est un tiers de Madoff. Il a promis à mes beaux-frères des placements à 10% par mois. Pas 10% par an, 10% par mois. Donc ça, et il a commencé à verser l'argent, bien sûr, avec l'argent des autres, comme tout escroc de ce genre. Un tiers de Spielberg, car il réécrit l'histoire de chacun, il la scénarise, évidemment dans le sens qui plaît à chacun, et il explique, par exemple, des morts qu'il considère comme suspectes, il les explique par le fait que ces gens ne sont pas morts de maladie, mais ont été assassinés. Et puis, le troisième tiers du cocktail, eh bien, c'est James Bond.
C'est James Bond, le troisième tiers. Et ça, on comprend bien pourquoi James Bond, évidemment. Et d'autant plus que Thierry Tilly va emmener tout le monde à Oxford, en Angleterre. Une famille totalement ruinée. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL.
Sur les traces ce soir de Thierry Tilly, cet homme, ce gourou, qui en ces années 2000 place sous emprise mentale une vieille famille de l'aristocratie protestante du sud-ouest, les Védrines. Les Védrines qui, en cette année 2008, n'ont plus rien. 7 ans après la rencontre avec Tilly, les comptes en banque sont secs. Le château de Martel à Montflanquin, cette bâtisse qui se transmettait de génération en génération chez les Védrines, ce trésor familial est vendu. Derrière ces actes de vente, ces procurations, il y a toujours, bien sûr, l'énigmatique Thierry Tilly, directeur de conscience ou escroc. Le fait est qu'en ce mois de février 2008, sentant sans doute que le vent est en train de tourner, Thierry Tilly fait déménager la famille jusque dans une maisonnette à Oxford, en Angleterre. Seuls 2 membres, Philippe de Védrines et sa compagne, ont fait défection. En Angleterre, Tilly met ses protégés au travail. Petit boulot à Londres et à Bristol pour les plus jeunes, Tilly retient 90% des salaires et des pourboires. On ne contredit pas le gourou Tilly, sinon c'est la punition. Un jour, il ordonne à Christine de Védrines d'avouer où se cache le trésor des rois de France. Elle sera forcée de rester assise sur un tabouret jour et nuit. Durant 2 semaines, les autres membres de sa famille, y compris son mari, se relayeront pour l'empêcher de dormir. Quand tout cela s'est arrêté, je marchais à 4 pattes, dira Christine. Jean Marchand, alors que votre épouse fait partie des reclus d'Oxford, vous allez décider d'organiser avec un avocat spécialiste des sectes, maître Daniel Picotin, l'opération Bow Window, l'exfiltration de la famille de Védrines. Mais ça va être plus compliqué que prévu.
Oui, alors c'est une opération que j'assimilerais à une pantalonnade. On ne sort personne ce jour-là. Ça se passe aussi mal que possible. Bien sûr, c'était une démarche sympathique, mais pas très sérieuse et pas très bien organisée. Et c'est un euphémisme. Donc voilà, ça ne débouche sur rien de concret. Mais il faut savoir qu'à l'époque, tout de même, toute la médiatisation de cette affaire, considérable d'année en année, et se transmettant par vagues, si je puis dire. Dès que la justice marquait une pause, hop, les journaux, mes confrères, redémarraient. Donc cette médiatisation porte ses fruits. Un juge d'instruction, il y en a eu 5 au total, met d'abord Tilly sous contrôle judiciaire, et puis très habilement, il lui fait rendre son passeport, mais le fait placer sur écoute, et l'on apprend comme ça, la justice apprend comme ça, que Tilly va partir pour la Suisse.
C'est ça.
Il quitte le berceau douillet d'Oxford, il est en Suisse, et il se fait arrêter en Suisse. Il est rapatrié en France, incarcéré, et vous connaissez la suite.
Alors il va se faire effectivement arrêter à Zurich, en Suisse, mais qu'est-ce qui se passe dans votre famille, à Oxford, dans cette maisonnette comment est la vie? Elle est identique à celle du château de Martel?
La vie était très dure, parce qu'il n'avait pas plus de moyens qu'avant, et comme vous le disiez très justement, les rémunérations des uns et des autres étaient prélevées par Tilly. Il leur restait très très peu d'argent, et il vivait toujours dans des conditions extrêmement précaire. Donc Tilly arrêté fin octobre 2009, il ne se passe rien d'abord. Parce qu'ils sont persuadés, nous parlions de James Bond tout à l'heure, qu'il va s'en sortir, qu'il est en mission. Il n'est pas du tout arrêté. C'est dans le meilleur des cas une apparence. Et en fait, non, il est bien arrêté, il va être en prison, et le procès dont vous parliez tout à l'heure aura lieu.
On va en parler tout de suite. Mais ça veut dire que la manipulation mentale va continuer même en l'absence
quelques semaines, parce que tout de même, encore une fois, l'édifice se lézarde gravement, de jour en jour. Tilly n'est plus là, il a disparu, on ne le voit plus. Au début, encore une fois, on pense qu'il va réapparaître, il ne réapparaît pas. Un côté important, c'est que l'argent n'est plus prélevé. Ils peuvent se remettre à vivre à peu près normalement. Mais voilà, Tilly, l'invincible, est vaincu.
Alors vous avez dit, effectivement, vous avez parlé de cette arrestation le 21 octobre 2009 à Zurich, en Suisse, de Thierry Tilly. Un mandat d'arrêt international avait été délivré contre lui. 3 ans plus tard, il est jugé à Bordeaux. Apparition fantasque, Philippe de Maria est à l'audience pour RTL.
Thierry Tilly est un peu l'homme aux mille vies. Il commence tôt, à 12 ans déjà. Il saute en parachute d'un transal grâce à une dérogation signée par le général Bijard. C'est ça, Tilly, des faits improbables, impossibles à vérifier, liés à des personnages célèbres dont il se dit proche. Par exemple, la partie civile dit que ses diplômes sont bidons. Faux, répond Tilly. Ils m'ont été remis par Bernard Kouchner. Son avocate tente de limiter les dégâts en disant qu'il pourrait avoir un problème de perception du réel. Ça n'arrête pas Superman. Il a été champion de tennis. Il a fait de l'intelligence économique, c'est-à-dire de l'espionnage pour un grand groupe français à 400 000 francs par mois. La présidente du tribunal est absolument atterrée. La famille de Védrine observe le phénomène. Pour eux, il s'agit bien du même Thierry Tilly qui, à force de mensonges et de coups de pression, leur a extorqué plus de 4 millions d'euros.
Maître Alexandre Novion, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Thierry Tilly. Comment croire votre client, cet homme qui ment et brouille les pistes ?
Écoutez, moi je crois que la justice doit faire voir les gens tels qu'ils sont. Moi, j'ai été d'ailleurs à l'audience, beaucoup plus l'adversaire des psychiatres qui avaient examiné Thierry Tilly que des parties civiles ou du ministère public. Pourquoi ? Parce que ces expertises ne lui donnaient absolument aucune chance. Elles faisaient de lui un être totalement responsable, totalement normal, qui n'avait absolument aucun désordre, aucun trouble dans les conditions d'existence. Et c'est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il finira par être condamné à ras-bord, parce qu'avec des expertises comme ça, qui ont la force d'une armée, qui ouvrent effectivement les portes de la sanction, on ne peut pas attendre de la justice qu'elle aille dans tous les angles humains, dans les circonstances atténuantes, etc. Donc, il y avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Ensuite, l'audience, c'était effectivement parfois, par moment, une sorte de barnum où Tilly était dans ses gargouillades, dans ses tartarinades, dans sa verve fariboleuse, tenant des propos totalement chignolesques que même les parties civiles étaient écroulées de rire sur le banc. Moi, je pense, si vous voulez, que j'ai appelé ça, bon, évidemment, j'étais obligé de plaider quand même avec des pincettes sur certains aspects de son dérangement. J'ai appelé ça le monde selon Tilly. C'est-à-dire que, en fait, Jean Marchand, par exemple, si vous voulez, c'est quelqu'un de rationnel. Quand il a vu Thierry Tilly la première fois, il a mis une sorte de, on va dire, de clôture électrique entre Tilly et lui. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que Tilly a un savoir absolument extraordinaire, une mémoire et un savoir extraordinaire. C'est-à-dire que quand, et ça je l'ai pu l'expérimenter à travers certaines discussions, il a des connaissances dans certains domaines qui auraient pu être des connaissances sanctionnées par des grands diplômes.
Mais pourtant, ça ne donnera rien et Thierry Tilly sera condamné à 10 ans de réclusion. Et qu'il va accomplir. Fin de l'histoire ? Eh bien, pas du tout. L'affaire des reclus de Montflanquin est loin d'être terminée. On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Avec ce soir le dossier Thierry Tilly, cet homme qui, dans les années 2000, avait placé sous sa seule influence toute une famille, les Védrines, propriétaires du château de Montflanquin dans le Lot-et-Garonne. 6 ans après la condamnation définitive de Thierry Tilly, 10 ans de réclusion, les blessures sont toujours là.
Il a créé un monde de peur autour de nous, de terreur. Nous avions peur de tous, de tout le monde, de tout, du bruit, de la personne qui passait à côté de nous. Il y a à la fois le personnage qui a besoin d'exercer du pouvoir sur l'autre et de nous traiter comme des marionnettes et d'être à son service. Et puis l'autre dimension, c'était l'argent. Je pense que c'est une affaire que l'on n'oubliera jamais et que la seule façon, en tous les cas pour nous, Jean, les enfants et moi, de surmonter cette épreuve, c'est de vivre avec.
Jean Marchand, c'est Guylaine Marchand, votre épouse, qu'on vient d'entendre.
Oui.
Elle évoque l'argent. Avez-vous fait les comptes de ce qui a été dépouillé à la famille Védrine ? On parle de 5 millions d'euros.
Oui, on n'en est pas très loin, puisque effectivement, il a pris tout l'argent, tous les placements, tout ce qu'il a pu prendre. Et nous parlions tout à l'heure des rémunérations de ceux qu'il a mis au travail, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Il y avait tout cela, donc. Mais il y a aussi les biens qu'il a fait vendre, c'est-à-dire à tous, y compris le château de Martel, donc la demeure familiale ancestrale dont vous parliez tout à l'heure, qui a été, je le dis, bien que n'étant pas impliqué, qui a été un drame. C'est une maison magnifique, mais surtout c'est une maison qui avait une âme, et cette âme, c'était celle de la famille. Donc, c'est une vente tout à fait extravagante qui a lieu effectivement en 2008, avec un personnage extrêmement ambigu dans cette opération. C'est un dépouillement. Tout à fait. Et puis, il y aura une seconde vente. Et cette seconde vente, ben, elle sera faite à des particuliers qui n'ont rien à voir dans cette histoire, manifestement. Ce qui fait que toute tentative de récupération du château de Martel sera vaine et n'aboutira pas.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce château a été légalement vendu, c'est bien ça ?
Oui.
Alors que les vrais propriétaires étaient...
Spoliés. Absolument.
Ils n'étaient pas en état, en tout cas, de réagir ou de faire quoi que ce soit.
Non, puisque c'était une opération monté par Tilly, le monde de Tilly dont parlait tout à l'heure Maître Novion, que je salue au passage car j'ai beaucoup d'admiration pour lui et pour la manière dont il a défendu Thierry Tilly. Mais voilà, c'est une famille qui a effectivement tout perdu, y compris ce qui n'était pas monnayable, mais ce qui était encore une fois l'âme de la famille, cette demeure que nous aimions tous.
Et est-ce que tout le monde, Jean Marchand, en ce moment, dans votre famille, essaie de se reconstruire ? Je parle des personnes qui ont été en réclusion.
Alors, je peux vous parler surtout de ce qui nous est arrivé à nous, de la manière dont nous avons fonctionné. Très justement, Guylaine, ma femme, disait tout à l'heure, lors du procès, qu'on ne tourne pas la page, parce que c'est une bibliothèque entière qu'il faudrait tourner. 10 ans d'une vie. On vit avec. On s'habitue à vivre avec, et c'est les trois psys formidables dont je parlais tout à l'heure, l'amour, le travail et notre festival de musique en Normandie, qui nous ont permis de, c'est le mot que vous employez, c'est pas forcément le mot que je préfère, mais de se reconstruire, et aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour aider ceux qui sont dans des épreuves comparables et qui savent qu'ils peuvent nous appeler, nous rencontrer, et que nous allons essayer de les aider par tous les moyens, même si ces moyens ne sont pas extraordinaires. Et même si, je le regrette, je voudrais juste le dire, on déconstruit un petit peu l'appareil qui avait été mis en place pour lutter contre les dérives sectaires. Je veux parler de la Miviludes. Mmh. Il est fort dommage qu'on la sacrifie.
Alors, Maître Alexandre Novion, vous défendez Thierry Tilly, il a purgé sa peine, il est sorti de prison, il est libre, oui. Après d'ailleurs avoir séjourné, je crois, au centre hospitalier psychiatrique de Cadillac, en Gironde. Que devient-il aujourd'hui ?
Bah écoutez, moi je voulais dire, je crois quand même que, je parlais tout à l'heure de ce verdict préliminaire des psychiatres. Moi, je crois qu'il avait, Tilly avait des difficultés psychologiques qui ont évolué dans le temps. Il est évident que le Tilly que les marchands et les de Védrine ont connu n'est peut-être pas le même que celui qui est passé en jugement par la suite et celui qui est sorti de détention. Moi, j'ai eu des nouvelles de lui dernièrement. Voilà, il m'a écrit, il m'a indiqué qu'il me gardait sa confiance tout en tenant évidemment des propos très persécutifs sur notamment à l'endroit des médias, de la presse. Désirant que vivre le plus caché possible
Faire oublier finalement, c'est ça.
Et se faire oublier finalement.
Ouais. Vous ne craignez.
Je comprends très bien. Je remercie les propos de. Je salue également Jean Marchand pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je pense que si vous voulez, on ne peut pas, même si on se rejoint sur bien des points, eux ont connu Thierry Tilly. Et c'est vrai que Thierry Tilly, ils l'ont eu tout le temps pendant des années, je veux dire la famille de Védrine, tandis que Gonzalez n'était pas au contact direct. Mais si vous voulez, les dialogues, les conversations téléphoniques, les communications qui ont été interceptées dans ce dossier m'ont quand même convaincu que Tilly n'était que le relais.
Oui, c'est ce que vous disiez effectivement tout à l'heure, hein, qu'il était pris en main par des hommes d'affaires, des affairistes, qui l'auraient poussé à monter tout ce système.
Si vous voulez, par tout simplement ce Gonzalez, et il y a des conversations téléphoniques qui sont dignes d'ailleurs de certains dialogues d'Audiard, où l'intéressé indique à Tilly, tu comprends, maintenant il y a des décalages, dans les décalages, il y a des gens qui s'infiltrent, et puis si ça continue, de toute façon, après, il va y avoir des conséquences, et puis maintenant, je veux que le fric y rentre. Voilà,
Maître Novion, encore juste une petite question, est-ce que vous craignez que Thierry Tilly refasse parler de lui sur le plan judiciaire ?
Alors, moi, je crois, c'est presque...
Très court, hein, en quelques mots.
Je ne voudrais pas que ça soit indécent de parler des souffrances de Tilly, mais je crois que, vous savez, c'est très difficile de vivre en prison quand vous êtes différent, vous êtes un peu différent. Et je crois qu'il a eu une détention quand même très, très pénible, et je crois que ça doit l'avoir calmé, quand même. Ouais.
Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Merci, Jean Marchand, d'avoir été notre invité dans le studio de l'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre, écrit avec votre épouse, Diabolique, chez Ixo Éditions. Et bravo à l'équipe qui a travaillé sur ce dossier, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Marc Bisset à la réalisation. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL.
Vous écoutez RTL.